Collège du Savoir. Les conférences de la Bibliothèque nationale de France. La conférence que vous allez entendre a été donnée à la Bibliothèque nationale de France le mercredi 5 juin 2002 par le scénariste, écrivain, homme de théâtre, romancier, amoureux de l'Inde comme nous l'avons vu hier, Jean-Claude Carrière. Aujourd'hui, la science et les mots. Comment parler de science, mais aussi comment la science nous parle-t-elle, avec quels mots, quel sens donne-t-elle aux mots quotidiens et quelle influence cela a-t-il sur le sens habituel de ces mots ?
Au tout début, pour ceux qui étaient là avant-hier, après être parti de la fiction, de ce qui est inventé, nous allons essayer de finir par ce qui est réel. Car s'il y a quelque chose que la science étudie, c'est bien la réalité. Croit-elle et dit-elle. Et pour parler de cette réalité, elle a bien sûr un langage qui lui est propre, sur lequel nous reviendrons, mais elle suppose avant tout que comme ce qui se passe en ce moment, nous pouvons utiliser un langage que les uns parlent et que les autres comprennent. Ou bien que les autres parlent et que les uns comprennent, c'est-à-dire un langage qui soit le même. Or, si nous regardons aujourd'hui la surface de la planète où nous vivons, il est bien évident que nous sommes tous du peuple de Babel. C'est-à-dire que nous parlons des langues diverses et que si je faisais cette même lecture dans un autre pays, cela poserait immédiatement des problèmes de langue, de communication, de traduction, extrêmement compliqués. Et non seulement il y a des différences d'un pays à l'autre, d'une langue à l'autre, mais à l'intérieur même d'un pays comme la France, où on parle français, il y a une infinité de territoires à travers lesquels les langages passent très difficilement. Il y a des territoires qui définissent et délimitent des catégories d'études et de réflexion qui sont plus ou moins séparées et qui sont quelquefois impénétrables. J'ai pris des notes aujourd'hui pour une fois, parce que comme il est question de mots et qu'il y a des citations, j'ai voulu essayer de ne pas me tromper. Dans chacun de ces territoires, quand un individu essaie de pousser aussi loin que possible dans la liste de la partie qu'il a choisi d'explorer, il découvre nécessairement de nouvelles réalités, de nouveaux concepts, et il se trouve dans l'obligation, en même temps, d'inventer de nouvelles paroles, d'inventer des mots nouveaux, qu'il s'agisse de sport, de politique, d'économie, de théologie et bien entendu de science, de quoi nous allons en partie parler aujourd'hui. Et plus le territoire qu'il explore sera complexe, plus le langage qu'il va inventer sera tortueux, compliqué et parfois même détourné. D'où cette accusation que nous relevons tous et quelquefois, à juste titre, un peu partout, l'accusation de jargon qui frappe, par exemple, assez souvent les philosophes, et même les nouveaux philosophes, quand ils inventent et utilisent des expressions qui paraissent être les seules à comprendre. C'est-à-dire que, à quoi bon, a-t-on envie de leur dire, prétendre parler de la condition humaine si les hommes ne vous comprennent pas ? Et à quoi ? Les philosophes répondent bien justement que l'analyse philosophique, qui est par définition une productrice absolument inlassable de concepts, un concept est un objet mental qui sert à mettre en relation le monde avec nous, sous un angle et sous une lumière nouvelle. Donc cette analyse philosophique exige ce vocabulaire particulier qui fonctionne quelquefois comme un jargon, voire comme un argot. Il ne faut pas oublier que la définition même de l'argot, sur lequel peut-être nous aurons l'occasion de revenir en cours de discussion, c'est à l'origine un langage de malfrats, de malfaiteurs, de cambrioleurs, qui peuvent parler entre eux même si des oreilles ennemies les écoutent. Ils se comprennent entre eux, et s'il y a autour d'eux des indicateurs, des bourgeois, voire des policiers, ce qu'ils disent n'est pas compris. Ce n'est évidemment pas le cas des philosophes. Je me garderai bien de les assimiler à des malfaiteurs. Mais on peut quelquefois se poser la question. Et les philosophes répondent que l'expression exacte, ou tout au moins exacte, aussi exacte que possible d'un concept, serait interdite. Et le philosophe ne pourrait, s'il se privait de ces mots-là, il pourrait ne penser que dans le banal, l'ordinaire, ce qui n'est pas son ambition. C'est un débat qui, comme tous les débats, est très ancien et qui a connu à certaines époques des points culminants. Rappelez-vous par exemple, c'est une époque que je cite avec plaisir pour l'avoir pas mal fréquentée, la scolastique moyenâgeuse, dont, qui est restée longtemps fameuse par l'obscurité des expressions qu'elle utilisait. Et non seulement elle est restée fameuse, mais elle a été très souvent parodiée et volontiers moquée. Et pourtant, comme on peut en être sûr, cette expression risible pour certains d'entre nous aujourd'hui a été à un moment donné de l'histoire du monde l'expression des esprits les plus brillants et les plus consciencieux. L'expression de tout ce que l'intelligence, nous dirions aujourd'hui, la plus pointue de ce temps-là, pouvait prétendre atteindre. Alors, doit-on, c'est une question que tous les scientifiques et philosophes se posent, doit-on à tout prix, dans un monde obscur, rester clair? N'y a-t-il pas un danger de simplification et par conséquent de fausseté à vouloir à tout prix appliquer au monde qui par définition est obscur la clarté vers laquelle nous tendons? Peut-on tout dire à tous? Question aussi que les scientifiques et les philosophes se posent. C'est une très haute ambition. Je rappelle souvent à ce propos une phrase d'André Breton qui disait « Tout philosophe que je ne comprends pas est un salaud ». Et il entendait par là sans doute que tout langage secret, comme je le disais au préalable, qui s'apparente au rite d'une secte, c'est-à-dire qui est limité à quelques individus susceptibles d'en apprécier les subtilités, se ferme au reste du monde. Au reste du monde, j'ai mis ici entre parenthèses, qui souvent l'a subventionné. Il ne faut pas oublier, c'est le cas pour chacun d'entre nous. Nous payons quelquefois pour des travaux que nous avons par la suite beaucoup de mal à comprendre. Et ayant ainsi constitué un langage à l'intention d'un petit groupe d'amis, c'est ce que voulait dire Breton, il se réserve le droit à cette connaissance-là, le droit à lui seul et à ses amis par égoïsme, par orgueil et aussi, naturellement, souvent, par intérêt. Cependant, André Breton lui-même était-il directement compréhensible par tous? Une question qu'on peut aussi se poser quand on lit certains de ses poèmes. Est-ce qu'il n'utilise pas, qu'il le veuille ou non, une forme poétique qui l'éloigne inévitablement du langage courant? Sinon, il ne s'agirait pas d'une forme poétique. Quant à ces textes théoriques, comme par exemple les deux, le premier et le second manifeste du surréalisme, la lecture en est-elle vraiment aisée pour tout un chacun? S'agit-il de textes clairs? On peut en douter. Je rappelle une fois de plus la fameuse antithèse entre Rivarol qui disait tout ce qui est français est clair et le Inoue qui disait, le japonais, un grand penseur japonais qui disait tout ce qui est clair n'est pas japonais. Donc la clarté n'est pas nécessairement la façon la plus simple, la plus efficace et la plus riche de voir et de décrire le monde. Tous ces problèmes-là se posent nécessairement au langage, et je mets au langage au pluriel. À supposer que l'on puisse tout dire, ce qui est qui a été un des rêves de ma vie, doit-on tout dire? C'est encore un autre aspect de la question. Doit-on, par exemple, je dis pardon à mon intermédiaire technique, doit-on par exemple révéler les secrets d'une arme nucléaire à n'importe qui? Un certain secret, une certaine clandestinité, quelque chose de maintenu, obscur, n'est-il pas le gage et depuis longtemps de la sécurité et de la tranquillité des peuples? On peut se poser la question, si Bouvard et Pécuchet vivaient aujourd'hui, est-ce qu'ils ne fabriqueraient pas une bombe atomique dans leur cuisine? Qui sait? Alors, écartons cette dernière interrogation qui n'est pas vraiment dans le sujet que je voulais aborder aujourd'hui et qui pourtant reste très, très harcelante. Et promenons-nous un moment dans l'exemple de la scolastique que j'évoquais un peu plus haut. Et dans le très dur combat que les penseurs de ce temps-là durent mener pour nommer, pour donner des noms à l'irréel, c'est-à-dire au divin. Le divin qui était considéré par tous à ce moment-là, penseurs ou non-penseurs, comme la réalité suprême. Ce que la science veut aujourd'hui nous donner à voir et à comprendre. La réalité était divine. Bon, comment parler de Dieu qui ne nous parle pas? Les expressions qu'on utilise alors au Moyen-Âge et qui sont toujours sur nos lèvres viennent d'abord évidemment de la terre. J'en ai noté ici quelques-unes. Nous appelons Dieu Seigneur. Nous l'appelons le Tout-Puissant. Comme s'il était une sorte de super-roi assis sur un trône de nuages. Nous parlons de son pouvoir, exactement comme nous parlerions du pouvoir d'un monarque. Nous tentons d'attirer sur nous ses, entre guillemets, bienfaits. Nous implorons son indulgence et son pardon, et ainsi de suite. Tous ces mots appliqués à Dieu viennent directement de ce que la terre pouvait offrir aux femmes et aux hommes de ce temps-là. À un niveau de réflexion plus élevé, au moment où, par nécessité, les théologiens, c'est-à-dire ceux qui font le logos de Dieu, entrent en scène, le langage devient nécessairement plus inventif et forcément plus subtil et plus compliqué. Cela se voit quand il s'agit de définir les mystères sur lesquels repose la sainte religion chrétienne. Il faut maintenant, par exemple, parler de mots que j'ai notés ici, de transsubstantiation, de diophysisme, de monophysiste, qui sont des notions, par définition, au Moyen-Âge, interdites aux profanes. Dieu est un et trois, et E-T. Il est E-S-T, un et E-T, trois. Un seul Dieu en trois personnes. S'il y a des mathématiciens dans la salle, je dirais que voilà une équation céleste des plus difficiles à résoudre. 1 égale 3. Mais comme le dogme est interprété et établi de cette manière, et que donc on ne peut pas le discuter, et comme de toute façon l'absurde est divin par définition, credo quia absurdum, c'est-à-dire que je crois parce que c'est absurde et que cela n'a pas pu naître dans une cervelle humaine, c'est donc une révélation divine, il faut donc formuler cette contradiction, 1 et 3. Prenons juste cet exemple. Cela demande un effort de langage qui n'est pas interdit de trouver admirable et qui a demandé de très très longues, des milliers d'heures de réflexion. Et la raison humaine, à ce moment-là, doit lutter contre elle-même pour formuler ce qui, par ordre divin, ne se comprend pas. Et puisque les hommes ne sauraient inventer une réalité qui échappe à leur propre raison, il faut absolument arriver à une formulation. Ainsi, pour établir des différences, je dis, mais c'est dans ce qui ne se différencie pas, dans ce qui est un, on finit par écrire ceci. Et là, je cite évidemment très, très méticuleusement. Le Père, dans les trois personnes de la Trinité, le Père n'est ni créé, ni engendré. Le Fils n'est pas créé, mais il est engendré. Le Saint-Esprit n'est ni créé, ni engendré, mais il procède du Père et du Fils. L'invention du mot procède, dont on se doute qu'il va donner lieu à, évidemment, à de très abondants commentaires dans les années qui suivront, est certainement très habile, mais elle est aussi, par rapport au problème posé, parfaitement juste. Il s'agit de définir les trois personnes en en gardant l'unité. Et cette formulation dit ce que les meilleurs esprits du temps, on pourrait dire, pensaient de l'impensable. Elle permet de définir ce que l'on a aussi nommé avec, je reviens à la formulation mathématique, avec une témérité arithmétique impressionnante, l'unité trinitaire. Voilà jusqu'où les mots peuvent aller et jusqu'où ils sont allés. C'est les mots que je vous cite ici sont évidemment historiques, exacts. Si je m'attarde ainsi sur le langage religieux d'autrefois, je pourrais en choisir d'autres d'ailleurs, philosophiques et même, je vous l'ai dit, sportifs, littéraires, etc. C'est, je crois, parce que ces quelques mots nous conduisent indirectement aux obstacles que vont rencontrer les scientifiques à partir du XVIIe siècle quand ils tenteront de faire part au grand public de leur découverte. Et cette fois, non plus dans le fantasme religieux, c'est-à-dire dans l'irréel divin, mais dans ce qu'ils appellent et continuent d'appeler la réalité ou encore la nature. Et pour essayer, encore une fois en m'attardant un moment au Moyen-Âge, de montrer la non-innocence de ce langage, car aucun des mots que nous utilisons n'est innocent, je prends un dernier exemple théologique, c'est celui du dogme de l'Immaculée Conception, dont vous avez tous entendu parler, et que je considère comme un véritable tour de force sémantique, qui ne fut réussi qu'au XIXe siècle, c'est un des dogmes les plus récents de la religion chrétienne, et qui concerne non pas du tout la naissance de l'enfant Jésus d'une mère vierge, ce n'est pas de ça qu'il est question, mais il s'agit de la conception de Marie elle-même dans le ventre de sa mère, comme libérée du péché originel. C'est ça l'Immaculée Conception. Alors, cette expression, aujourd'hui banalisée, au point même d'en être peut-être oubliée, mais véritablement géniale en son temps, peut se lire d'une façon positive et peut aussi se lire comme une photo en négatif. Et je vous y invite. C'est-à-dire, si, car elle peut ainsi nous révéler du même coup une vision, certes très pessimiste, mais fondamentale de l'espèce humaine, dans deux mots. En effet, si Dieu a voulu que la mère terrestre de son fils fût délivrée dès sa conception du péché originel, s'il a voulu que cette conception fût immaculée, cela signifie que toute conception ordinaire est maculée, puisqu'il s'agit ici d'une exception, c'est-à-dire porteuse d'une tâche. Cette tâche est le péché originel avec lequel nous venons au monde, implacablement, et qui nous situe a priori sous le signe pesant, sous le signe infamant de la culpabilité. C'est une façon de nous dire en deux mots, si nous savons lire et comprendre et écouter, vous voulez définir l'espèce humaine ? Oui, et bien voici, elle est coupable. Coupable de quoi ? Coupable. Constatation qui, si nous la prenons au pied de la lettre, a mille résonances. C'est-à-dire, si nous portons tous la faute d'Adam et Ève, cela signifie-t-il par exemple qu'il y a un héritage du crime ou du péché ? Cela signifie-t-il que les Allemands d'aujourd'hui doivent être punis pour les méfaits de leurs grands-parents ? Et ainsi de suite. Et qui, en deux mots, on voit que s'établit ici le fondement de l'attitude humaine, les deux mots Immaculée Conception, sur laquelle, d'une manière totalement arbitraire, en accaparant un récit mythique, s'établit et s'exerce parfois avec la plus terrible dureté, une loi, une religion, c'est-à-dire un pouvoir. Dans l'échelle du surnaturel, cela se complique encore, amusons-nous un peu, avec les anges, dont nous ne trouvons pas d'équivalence précise autour de nous, à quelques exceptions près, peut-être certains d'entre vous ont vu des anges, contrairement à Dieu, qui est l'image du Seigneur. Il est très difficile de trouver dans notre vie quotidienne, comme le Seigneur pour Dieu, des images avec lesquelles nous pourrions définir les anges. Les anges sont impalpables, ils sont invisibles, ils sont une pure féerie, et pourtant, ils exercent une force physique. Jacob, dans la Bible, s'est battu toute une nuit avec un d'entre eux, ce qui suppose que l'ange offrait une résistance, offrait une matière. En langage des lutteurs, il offrait des prises à Jacob, et vice-versa. Alors, de quoi donc sont faits les muscles des anges ? Quelle est cette, entre guillemets, matière angélique dont on a beaucoup parlé ? Si elle s'apparente à la matière humaine, présente-t-elle des sexes différents de l'individu à l'autre ? Vieille question. Mais à quoi ces sexes serviraient-ils, puisque les anges sont immortels et ne se reproduisent pas ? Auraient-ils donc des sexes virtuelle, fictive, factice. Les hommes doivent à chaque instant, dans leur langage même, décider du ciel et de ses habitants. Cela fait partie d'une très ancienne tradition. Ils ont ainsi trouvé, pour les anges, je vous cite quelques exemples que j'ai notés ici, le corps glorieux, pour parler de cette matière. Et certains franciscains sont allés jusqu'à parler, et je trouve ça très étonnant, d'une matière spirituelle. Ce qui constituait à l'époque une étonnante contradiction dans les mots matière spirituelle, matière esprit matière. Contradiction que la science d'aujourd'hui achève lentement d'effacer. Alors venons-en à la science et constatons d'abord que dans notre vie de tous les jours, nous parlons toujours comme au Moyen-Âge. C'est-à-dire que nous disons que le soleil se lève, que le soleil se couche, ce que nous savons être faux. Et notre langage reste ainsi étrangement collé aux apparences, et nous pourrions évidemment donner de multiples exemples. Parce qu'il semble que les faits scientifiques soient allés plus vite que les mots, qui essaient d'en parler. Le biologiste Albert Jacquard, je l'ai noté ici, a fait remarquer que nous disons encore « les enfants que nous avons faits », alors que nous n'avons fait tout au plus que des gamètes. Encore faudrait-il savoir si nous les avons vraiment fabriqués, ces gamètes, de façon intentionnelle et avec la matière adéquate. Les exemples pourraient se multiplier. Nous ne nous méfions pas des mots et des expressions toutes faites d'autrefois, qui sont devenues des automatismes, et qui trahissent pourtant, à chaque instant, la connaissance que nous pouvons avoir de la réalité. Je prends un seul exemple. C'est le mot « race » et son corollaire, « racisme ». Ces deux mots sont employés partout, dans toutes les campagnes électorales et anti-électorales. Nous les voyons, nous les entendons pratiquement chaque jour, ici ou là, et pourtant ils n'ont aucun sens. Ils n'ont aucun sens précis. La science affirme et répète vainement que, scientifiquement, il n'existe aucune définition acceptable du mot « race ». On sait ce qu'est une espèce, on sait ce qu'est une variété, on ne sait pas ce qu'est une race. Donc, le racisme est ainsi une pure illusion. Quand on parle de race, on ne parle de rien. Donc, c'est sur ce genre de point de détail que l'approche nue des mots, l'approche délivrée de tout a priori et surtout de toute habitude de penser et de parler, peut quelquefois nous éclairer sur nos attitudes de tous les jours et sur ce que nous entendons dire ici et là. De même, nous n'avons pas encore pris conscience, malgré les recherches scientifiques de tous ordres, et ils s'en foutent beaucoup, de notre petitesse, de notre solitude, de notre non-importance dans l'univers. Probable si de grands archivistes quelque part écrivaient l'histoire de l'univers, nous les figurerions peut-être qu'en une toute petite note en bas de page. Nous le considérons toujours à l'encontre de toute évidence comme le centre du monde, ce qui explique pour une grande part la persistance de l'astrologie, par exemple, qui repose sur ce terrocentrisme, comme si toutes les planètes qui nous entourent et les étoiles plus lointaines étaient toutes concentrées sur une seule action dirigée vers la Terre. Et dans ce centre du monde que nous continuons à situer sur la planète qui nous abrite, l'espèce humaine continue de s'affirmer comme la merveille de la création. C'est une très ancienne tradition, et pas seulement occidentale, dont nous ne sommes qu'un élément probablement très négligeable en fait. Alors, pénétrons maintenant dans, c'est une très longue introduction, dans le langage scientifique proprement dit. Et je vous propose de laisser de côté tous les mots et toutes les expressions purement techniques, qui là comme ailleurs sont indispensables, et cela est vrai dans toute catégorie d'activité humaine. Si je faisais une petite causerie aujourd'hui sur la marine, je serais obligé d'employer des mots techniques que seuls les marins comprendraient. La même chose pour la boulangerie, la même chose pour le cinéma, etc. Chaque activité humaine a nécessairement créé un vocabulaire à son seul usage. Par exemple, je peux citer l'ADN, le logarithme et la périhélie de Mercure sont parmi des milliers d'autres des expressions scientifiques dont la science a besoin, qu'elle doit utiliser si elle veut parler d'elle-même, mais qui ne nous intéresse pas aujourd'hui. Ce n'est évidemment pas de ce langage-là que je veux parler. Je veux parler d'un langage qui serait commun à ceux qui, comme nous, ou comme certains d'entre nous, ne sont pas des scientifiques de formation, et ceux qui, au contraire, ont fait de la science et de la recherche leur métier. Alors, attachons-nous d'abord aux mots usuels, qui sont destinés à mettre en rapport, comme je le disais un peu plus tôt, ceux qui savent et ceux qui ignorent. Ceux qui ignorent, mais ceux qui voudraient bien savoir. Et nous voyons aussitôt curieux lapsus, je viens de dire Afrique pour physique. C'est intéressant. Pourquoi ? Il faudra que j'y pense ce soir. Nous voyons aussitôt en physique et en astrophysique, par exemple, qu'un grand nombre des mots usuels, de mots que nous utilisons dans chaque phrase, ont perdu toute espèce de sens. Par exemple, quand nous parlons de l'univers, le mot « haut » et le mot « bas » n'ont plus aucun sens dans l'astrophysique d'aujourd'hui. Le mot « avant » et le mot « après ». Le mot « ici » et le mot « ailleurs ». Le ciel n'est plus en haut, ni la terre en bas. Ces habitudes de pensée, qui sont probablement plus que séculaires, qui sont millénaires, nous avons beaucoup de mal à nous en débarrasser, et nous levons toujours les yeux vers le ciel comme s'il était au-dessus de nous. Le ciel ne s'appelle déjà plus le ciel, et déjà depuis longtemps, il s'appelle évidemment l'univers. Et de même, parmi des mots très courants, je dirais qu'il n'y a plus de centre, il n'y a plus de borne, etc. Tous ces mots n'ont, dans le langage scientifique, plus de sens, et les scientifiques se gardent bien de les utiliser. Un mot aussi banalisé dans notre vie de tous les jours que l'adjectif « petit », tout à coup ne veut plus rien dire. Si nous plongeons dans l'immensité de l'univers aussi bien que dans l'infiniment petit, le mot a perdu toute référence. Nous ne savons pas à quoi l'appliquer. Et il en est bien entendu de même pour l'adjectif « grand ». Petit et grand, nous demandons-nous, mais par rapport à quoi ? Qu'est-ce qui ne serait ni petit ni grand ? Où le trouver ? Comment le chercher ? Lorsque nous, entre guillemets, descendons, et encore un mot qui est ici totalement vidé de sens, dans le domaine des particules élémentaires et des quarks qui composent la matière qui est la nôtre, la matière nucléaire, qui compose notre chair, ce micro, l'air qui me permet de vous parler, les galaxies lointaines, etc., dont même ce que nous appelons l'infiniment petit est infiniment loin de compte. Car on a dit, quand on a dit infiniment petit, on est encore infiniment trop grand. Et il n'y a aucun mot pour aller au-delà de l'infiniment, infiniment, infiniment, infiniment petit. Et on a beau se bercer comme ça de répétitions d'adverbes, on n'arrive jamais au cœur de la réalité. Nous sommes soudain, nous le constatons, très souvent, quand nous parlons avec des scientifiques, et il y en a un d'éminent parmi nous ce soir, que je nommerai tout à l'heure, nous sommes soudain privés de parole. Et si nous voulons viser à une exactitude même approximative, on pourrait dire que nous parlons à tâtons, avec des mots que nous pensions clairs, que jusque-là nous pensions efficaces, et qui sont maintenant impuissants et obscurs. Conscient de ce danger, car le monde n'existe que quand nous pouvons le nommer, c'est du moins ce que nous avons cru pendant longtemps. Existe-t-il sans le verbe ? Ou, comme le disait un de mes amis, faut-il croire le verbe sur parole ? C'est une autre question, c'est-à-dire le monde existe-t-il vraiment en dehors du fait que nous parlons de lui ? Ce n'est pas aujourd'hui que nous en déciderons. C'est souvent un jeu de l'esprit, c'est peut-être un peu plus que cela. Alors, conscients de ce danger, les scientifiques ont tenté, et c'est une première démarche intéressante, d'inventer des expressions nouvelles en employant des mots de tous les jours. Ainsi, le célèbre trou noir en astrophysique. Mais ils ajoutent aussitôt que le trou noir n'est pas un trou et qu'il n'est pas noir. Donc, ils avancent quelque chose pour immédiatement se rétracter et nous dire « faites très très attention à ce que je viens de dire ». Et le trou noir n'est pas un trou et n'est pas noir, il n'est, comme le disaient les précieux au XVIIe siècle en parlant des fauteuils, que le trou noir est une commodité de la conversation. Il nous sert à parler de quelque chose que, sans cela, nous ne pourrions pas nommer. C'est une approximation, c'est une évocation, et on peut très bien le comparer au corps glorieux des anges. Nous sommes à peu près au même niveau de précision dans les deux cas. Dans la théorie quantique, on nous parle également des couleurs. Les couleurs au niveau des particules élémentaires, en précisant aussitôt que, bien entendu, ces couleurs n'existent pas. Alors, une couleur qui n'existe pas, qu'est-ce que c'est ? Et on nous parle aussi de superposition, éventuellement de superposition d'action, de réalité, voire même d'univers, en nous avertissant, et là je cite un physicien avec qui je travaille en ce moment, en avertissant qu'on emploie ce mot à défaut de notre, qu'on n'a pas trouvé. Donc, on emploie superposition parce qu'on n'a rien trouvé de mieux. De même, pour désigner une réalité physique aujourd'hui, la réalité d'un phénomène physique, c'est-à-dire je verse de l'eau sur cette table et il y a une tache d'eau sur la table qui va sécher. Voilà un phénomène physique. Les physiciens préfèrent aujourd'hui parler non pas d'une réalité, non pas d'une eau qui tombe, non pas même d'une vie s'il s'agit d'un personnage animé, ils parlent d'une amplitude d'existence, ce qui est une formule qui fait humblement baisser la tête. Une amplitude d'existence, mais qui en même temps nous pose des questions. De quoi s'agit-il exactement ? Parce qu'il précise aussitôt qu'une infinité d'autres amplitudes nous entourent et peut-être nous manipulent, c'est-à-dire que je vais verser de l'eau sur la table, elle va tacher, mais en même temps l'eau n'est pas versée, je ne suis pas là, je ne vous parle pas, et il n'y a pas de tache sur la table. Il y a différentes amplitudes d'existence en même temps. Débrouillons-nous avec ça. Les mots de tous les jours, nous le savons bien, et nous le savons dans notre vie quotidienne et pas seulement dans le domaine scientifique, courent désespérément après le réel. C'est la même chose quand Marivaux écrit une pièce, quand Dostoïevski écrit un roman. Il n'a que les mots pour parler de l'infinie complexité de l'être humain. Il en est de même pour les scientifiques qui n'ont, au niveau où je me situe, nous verrons bien sûr qu'ils ont inventé d'autres langages, qui n'ont que les mots pour parler de la multitude infinie du monde. Alors, l'invention verbale fait de son mieux. Elle va chercher dans ce que j'ai appelé dans mes notes les fonds de cale de nos langages, et pourtant nous la sentons toujours à la traîne, cette expression. Parce que dès que quelque chose nous est formulé, immédiatement, une réserve, la fameuse réserve de la rigueur scientifique, s'impose et nous dit « je viens de vous dire ça, mais attention, ce n'est peut-être pas ça ». Par exemple, un des exemples les plus célèbres est le Big Bang. Le Big Bang s'est presque installé dans notre langage quotidien. On peut imaginer que quelqu'un dirait « il y a eu un de ces Big Bang hier soir à la maison », au sens de grande bagarre, grand branle-bas, une espèce d'immense remue-ménage qui a soulevé la maison tout entière. Et ce Big Bang est qualifié dans l'actuel manuel de science de la classe de terminale science aujourd'hui. Il est qualifié, je mets le mot entre guillemets, d'explosion. Or, tous les astrophysiciens, et il y en a un dans la salle, vous diront que le Big Bang est tout, sauf une explosion. Il ne peut pas y avoir explosion puisqu'il n'y a pas encore de matière. Donc, dans une classe de terminale aujourd'hui, on emploie explosion à côté de l'expression Big Bang, alors que c'est faux. Le Big Bang est une expression qui est due à un astrophysicien qui s'appelait Fred Hoyle, qui est récemment décédé d'ailleurs il y a quelques mois, et qui n'y croyait pas. C'est une expression utilisée en dérision. Il a parlé du Big Bang pour se moquer d'une théorie, lui qui était profondément athée, même un athée militant, dans laquelle il voyait ressurgir quelque chose d'une idée créationniste. Donc, ce mot, ces deux mots se voulaient moqueurs, et tout à coup, les voici pris au sérieux par tout le monde, figurant dans les manuels, et du même coup, presque automatiquement, mal compris. Alors, une expression fréquemment utilisée, elle aussi, le système planétaire de l'atome. Vous avez souvent entendu parler de ça. L'atome constitué d'un noyau dans lequel sont les protons, les neutrons, autour desquels tournent les électrons, souvent appelés les petites planètes du noyau, etc. Cette expression est parfaitement inadaptée. elle ne procède que d'une très très vague analogie et contribue avec beaucoup d'autres à ce que nous avions appelé dans Conversation sur l'invisible la langue de bois scientifique. Et Jean Audouz disait même une langue de plomb, dans certains cas. Car le système planétaire de l'atome, non seulement n'a aucun sens, mais peut nous égarer dans un système de pensée analogique à l'ancienne qui n'a plus cours du tout aujourd'hui. Alors, autre expression. Qu'est-ce qu'un j'y faisais allusion hier à propos de l'Inde. Qu'est-ce qu'un espace courbe? Si on y réfléchit une seconde, comment pourrions-nous imaginer un espace courbe? On peut imaginer une pièce courbe, on peut imaginer un couloir qui tourne, mais un espace sans aucune délimitation, ni haut, ni bas, ni droite, ni gauche, comment pourrait-il être courbe? Qui peut comprendre, qui peut visualiser vraiment cette expression qui nous est devenue totalement familière? Et même l'espace-temps, le fameux espace-temps d'Einstein, que ses successeurs ont rendu si ordinaire, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est qu'un espace-temps pour quelqu'un qui choisit simplement de ne pas recevoir des mots, les apprendre par cœur et de les avaler sans essayer de se rendre compte de ce qu'ils représentent vraiment? Il a fallu peut-être le génie intuitif de Marcel Proust dans les dernières pages de « À la recherche du temps perdu » pour s'approcher de cet espace-temps en mêlant, vous vous rappelez quand il décrit le duc de Guermantes, qui est âgé de plus de 80 ans, qui est assis dans un fauteuil, il le compare à un vieil évêque entouré de séminaristes, et tout à coup le duc de Guermantes se lève et s'en va, flageolant sur ses vieilles jambes. Et tout à coup, dans une même phrase, Proust saisit un homme dans l'espace, qui se lève et qui marche, du haut, dit-il, des chasses temporelles interminables, longues de 80 années. C'est-à-dire que nous avons à la fois des années et un espace. Nous avons l'espace et le temps dans la même phrase. Ce sont deux pages géniales que je vous invite tous à relire ce soir quand vous rentrerez chez vous, parce que c'est un des très rares moments dans l'histoire littéraire où on peut sentir dans les mots même. Et Proust a écrit cela quelques mois avant sa mort en 21, au moment même où Einstein et Bergson tenaient à Paris, au Collège de philosophie, une discussion très ardue sur la notion de temps. Einstein venait affirmer, c'était la phrase que toute la presse répétait à l'époque, que le temps n'existe pas, que le temps tel que nous le concevons, passé, présent, avenir, n'est qu'une illusion, si tenace soit-elle, alors que Bergson était évidemment partisan d'une notion beaucoup plus traditionnelle qu'il appelait philosophique du temps, et que Einstein ne voulait pas appeler philosophique, mais psychologique. Donc relisez ces deux pages de Proust, et aussi, s'il vous arrive de revoir un jour 2001, Odyssée de l'espace, le film de Kubrick, quand vous reverrez la dernière séquence, tellement énigmatique, tellement mystérieuse, vous verrez que à chaque plan, c'est-à-dire que chaque fois que le metteur en scène change d'angle de sa caméra, qu'il passe d'un plan à un autre, autrement dit, chaque fois qu'il change d'espace, le personnage vieillit d'un seul coup énormément. Le temps et l'espace s'accompagnent. Et c'est peut-être la seule manière de comprendre et de pénétrer parfaitement cette séquence qui est une des plus belles et des plus emblématique de toute l'histoire du cinéma, en tout cas pour certains d'entre nous. Donc, c'est là on touche, par des exemples extrêmement rares, à la difficulté extrême de compréhension et d'expression de ce que la science nous dit aujourd'hui. Devant cet obstacle, des mots ordinaires qui sont déviés et qui sont par la même égarés, perdus, on a commencé à multiplier dans les ouvrages scientifiques les guillemets. Alors ça, c'est une astuce aussi qui nous permet d'employer un mot sans l'utiliser. C'est une façon de nous dire, méfiez-vous du mot qui va venir. Hein? Il n'est pas exact. Autrement, il n'est qu'un essai de mots. Il n'est qu'une tentative de parler. Ainsi, nous avons vu écrire, par exemple, dans pas mal de livres récents, le mot « exister », entre guillemets. Nous savons bien que notre existence est entre guillemets, et même entre parenthèses, nous le savons tous. Mais que ce mot exister soit écrit entre guillemets dans un ouvrage scientifique a de quoi nous troubler et même nous conduire quelquefois à la confusion. Entre guillemets aussi, s'écrit aujourd'hui la fameuse réalité, entre guillemets, et j'ai même vu écrire entre guillemets dans un ouvrage scientifique il y a. Quelque chose d'aussi simple que il y a. C'était entre guillemets. Ça veut dire méfiez-vous des expressions les plus courantes et les plus ordinaires de notre langage. Elles n'ont peut-être pas le sens que vous croyez, ou elles ont peut-être plusieurs sens à la fois. Nous avons vu aussi apparaître dans la physique la plus récente une notion tout à fait singulière qui est le surtemps. Surtemps. Qui n'est pas aisé à saisir, même si on la met entre guillemets. Et aussi, plus récemment encore, un super espace-temps. Pour soutenir la théorie des super cordes. Que l'on ne saurait concevoir vraiment sans un super espace-temps. Et nous avons vu aussi que pour tenter d'écrire la symétrie, excuse-moi, je reviens à mes notes parce que là, il faut être précis, apparaître le squark, c'est-à-dire on met un S avant quark, en face du quark, et le sélectron, on met un S avant électron, le S rajouté en tête étant précisément le S, mais ça il faut le savoir, qui signifie la symétrie. Le S qui commence le mot symétrie. C'est ainsi que on pourrait dire que de nouveaux guillemets viennent au secours des anciens, avec une bonne volonté presque pathétique. Mais n'est-ce pas, dans ce cas-là, le doute venant au secours de l'incertitude, ou le flou venant aider l'imprécis. Pour parler des matières nouvelles, les matières non nucléaires, dont nous constatons la présence dans l'univers, mais sans pouvoir entrer en contact avec elles, nous avons déjà eu, depuis longtemps déjà, depuis 15 ou 20 ans, la matière noire, qu'on appelait aussi la matière manquante, ce qui pour une matière est un comble, laquelle apparemment aujourd'hui se divise en deux, la matière manquante ordinaire et la matière manquante supersymétrique. À nous, encore une fois, de nous débrouiller. Nous avons aujourd'hui, pour parler d'une nouvelle venue, qui n'a que quelques années d'existence, mais qui paraît être largement majoritaire dans l'ensemble de l'univers, mais qui nous reste aussi, elle, totalement inimaginable, car il s'agit d'une matière totalement non nucléaire, c'est-à-dire qui n'est pas composée comme la note de noyau d'atome, et par conséquent, avec laquelle nous ne pouvons avoir aucun contact. Nous avons des expressions aussi variées que l'énergie du vide, la matière virtuelle, et même la quintessence. Ce n'est pas Michel Cassé, ici présent, qui me contredira. Alors, cette matière est-elle stable ou instable? Tend-elle vers zéro dans le futur? On en discute. Quant au vide lui-même, inutile de vous dire qu'il est devenu, comme il fallait s'y attendre, plein. Alors, chemin faisant, tandis que s'effondraient les anciennes visions tutélaires, et très rassurante de l'univers qui était fabriqué par Dieu et obéissant à un plan précis, bien que nous restant mystérieux. Enfin, on a toujours imaginé Dieu à sa table de travail comme un dessinateur industriel en train de fabriquer les rouages du monde. Nous avons vu la science accueillir peu à peu, au fur et à mesure de découvertes de plus en plus passionnantes, des notions inquiétantes et aussi apparemment hérétiques que, je cite, et ce sont tous des mots scientifiques, le chaos, le désordre, le paradoxe, l'anomalie et l'aléatoire. Nous avons vu la science prise de vertige et de rêverie en se tenant strictement, et c'est ça qui est intéressant, dans une démarche scientifique. Nous l'avons vu braver la logique et défier même la raison, qui était jusque-là son socle. Rappelez-vous Kant, qui, peut-être le plus grand des philosophes, qui ne rêvait que de mettre la raison devant son propre tribunal. Où en sommes-nous avec l'anomalie et l'aléatoire? Nous avons rencontré des principes d'incertitude, expression scientifique s'il en est, et des attracteurs étranges. J'ai même entendu parler, mais là, sans trop oser demander de quoi il s'agissait, à propos d'une particule appelée tachyon, d'une masse négative, courbant humblement la tête, et d'un nombre doublement infini. Qu'est-ce que cela signifie? Pourrait-on tout à coup multiplier l'infini par deux? Jusqu'ici, on ne nous l'avait pas dit. Enfin, il a fallu, et là j'arrive à la troisième dimension, pour la science même, inventer d'autres mots. Et ici commence une aventure qui me semble à tout point comparable à celle que connut la théologie dans les temps anciens. Ainsi, le mot neutrino, hein, particule des plus subtiles, ainsi nommée parce qu'elle ne porte aucune charge électrique, et que sa masse paraît pratiquement nulle, il s'agit là aussi, à coup sûr, d'une vraie trouvaille sémantique, d'autant plus commode que le mot n'est pas à traduire, et reste le même dans toutes les langues. Neutrino, non seulement passe, traverse toutes les matières, sans y attacher la moindre importance, il traverse cette table, et moi, et le micro, et vous tous, mais il traverse aussi les cultures et les civilisations, puisqu'il n'a pas besoin de changer de langue. L'astrophysicien Michel Cassé, que je salue ici, ami très cher, aime d'ailleurs à le comparer aux anges, même au niveau du vocabulaire. On pourrait en effet lui appliquer des expressions au neutrino, et ici je prends des expressions de la scolastique, comme la matière fine, les êtres de lumière, les corporalités subtiles, qui ne viennent toutes du Moyen-Âge. On dirait que dans leur chasse désespérée des anges, les théologiens de ce temps-là, par un immense effort sur les mots, se préparaient à venir en aide aux physiciens, aux biologistes et aux chimistes contemporains lancés sur les chemins de l'invisible. Michel Cassé va jusqu'à relire attentivement des poètes et philosophes mystiques comme l'Iranien Sohrawardi, qui consacrait une de ses œuvres maîtresses à une réflexion sur la lumière. Alors, Michel, aujourd'hui, scientifique d'aujourd'hui, chercheur, ne recherche évidemment pas dans des pages du XIIe siècle des éléments scientifiques. Il y cherche une manière de parler. Et c'est tout aussi important que la réalité même qu'il étudie. Car s'il n'arrive pas à dire cette réalité, il ne sera jamais sûr que cette réalité existe vraiment. Et en tout cas, qu'il peut la partager avec ceux à qui il destine les résultats de son travail. Ainsi, le mystique disparu vient au secours du chercheur vivant. Celui-ci, à la différence du théologien, ne renonce ni à comprendre ni à expliquer, ce qui fut quelquefois le cas dans le passé, bien sûr, quand on sentait qu'un excès d'intelligence, un excès de compréhension et de divulgation du monde, comme j'y faisais allusion au début, et c'est de cela qu'il s'agit, risquait de remettre en question le dogme lui-même, le dogme pensé, passé avant l'explication même du divin. C'est pourquoi saint Augustin, qu'il faut toujours citer, déclarait fort prudemment, en parlant des anges, je le cite mot à mot, « Nous ne connaîtrons leur être de manière complètement claire que lorsque nous serons unis pour toujours avec eux dans la possession commune de l'éternelle béatitude. » Façon bien commode de dire que nous ne les connaîtrons jamais. Enfin, à quoi pourrait répondre la célèbre parole zen que je mets avec beaucoup de respect en face de saint Augustin, la lettre et les paroles ne sont pas extérieures à l'esprit. Elles en font partie. Ça, je le rajoute. La citation se termine à l'esprit. Même et surtout quand il s'agit des anges. Parmi les mots nouveaux qui correspondent dans l'aventure scientifique à des réalités, à des objets récemment découverts, comme les particules qui sont peu à peu répertoriées, et qui sont de plus en plus nombreuses, certains de ces mots sont assez, j'ai envie de dire, excusant auprès de ceux qui les ont trouvés, presque quelconques, comme proton, lepton, boson, tachyon, fermion vient de Fermi, un grand physicien italien. D'autres nous paraissent plus évocateurs, comme par exemple le gluon, qui a tendance à s'agglutiner, et le faiblon, dont le nom dit tout. Bref, nous retrouvons, et ça c'est très intéressant, dans le langage scientifique, comme dans d'autres, ce qui existe dans toute langue. C'est-à-dire un mélange de concret et d'abstrait, de savant et de familier, d'évident et d'inexplicable. Et nous pourrions dire aussi que ce langage contribue, comme d'autres, à ce que nous pourrions appeler, et c'est aussi un thème qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui, ce que nous pourrions appeler le métissage de la langue que nous parlons, que je suis en train de parler aujourd'hui et dans laquelle, comme vous avez vu, j'ai mêlé beaucoup de mots qui n'existaient pas il y a 30 ans. Les langues, forcément, vont toujours avec les peuples qui les parlent. Elles s'en sont les reflets, aussi fidèles que changeants. notre peuple se métisse, notre langue en fait autant. Et elle accueille elle aussi des mots immigrés, que quelquefois elle refuse, que quelquefois elle parque, que quelquefois elle rejette. Elle se débarrasse d'expressions, de phrases, de mots désuets, au vrai sens du mot, désuets, sortis de l'usage. Elle intègre des mots venus de nos banlieues, comme de nos laboratoires. Et je trouve ça tout à fait fascinant. On pourrait presque dire, dans ce dernier cas, dans le cas des laboratoires, Michel, que notre langue accueille des mots qui ne comprennent pas notre langue. Est-ce une bonne chose? Je le crois. Je crois aussi que ce sont les langues riches et généreuses qui se montrent les plus accueillantes. Et je n'en suis pas aussi certain pour les peuples. Deux ou trois dernières remarques. J'ai encore quelques minutes. Il est évident que je n'ai parlé ici, dans ce rapport de la science avec le réel, que du langage littéraire qui est composé de lettres et de mots que nous pouvons, nous tous qui ne sommes pas scientifiques, écrire et lire, sinon comprendre. Depuis belle lurette, la science a inventé d'autres langages, beaucoup plus efficaces et précis, mais qui présentent le désavantage de rester confiné à l'intérieur du cercle. Ainsi, évidemment, le langage mathématique et les algèbres sans lesquels la science ne pourrait pas exister. Depuis une quinzaine d'années, il est intéressant de voir que le graphique, ou plus exactement le diagramme, c'est là sous l'influence d'une sorte de génie de la physique américain qui s'appelait Feynman, s'est ajouté à la science, non plus seulement à titre de représentation d'un phénomène ou d'illustration. Le diagramme n'est plus simplement l'illustration de tel ou tel phénomène se passant au niveau des particules, mais comme véritable instrument de travail. Et il en est de certains diagrammes comme de certaines équations. Beaucoup de physiciens disent aujourd'hui que des équations vieilles de 50 ans n'ont pas encore révélé tous leurs secrets. Qu'en les examinant et en les travaillant, on découvre encore des relations secrètes à l'intérieur de ces équations. Thibaut Damour, avec qui je travaille en ce moment, dit même que le 21e siècle ne sera peut-être qu'un long et minutieux commentaire de tout ce que le 20e a découvert. Et de même, dans certains diagrammes, on voit des physiciens et astrophysiciens réfléchir longuement sur les relations qui peuvent exister à l'intérieur même d'un dessin. C'est tout à fait intéressant. Cette réflexion nous est évidemment interdite car elle suppose des connaissances techniques tout à fait extraordinaires. Et pourtant, nous sentons qu'il y a là des secrets qui n'apparaissent pas à première vue et qu'il faut étudier longtemps pour en percevoir la richesse et que jamais aucune parole ne pourra dire. Merci pour votre attention.
La conférence que vous venez d'entendre a été donnée à la Bibliothèque nationale de France le mercredi 4 juin 2002 par Jean-Claude Carrière. Elle achevait un cycle de trois conférences intitulé « Raconter le monde ». Réalisation, Malika Mezgache. Dans un instant, vous retrouverez Pierre Assouline. Thank you.
Bonjour à tous et à chacun et bienvenue sur France Culture en ce mercredi 24 juillet, première édition. Invité en ce début de matinée à 7h15, le philosophe Luc Ferry, ministre de l'Éducation nationale, disputera avec Antoine Mercier de l'humanisme démocratique. À 7h20, Hans Stark, chargé de recherche à l'IFRI, analysera avec Eric Laurent pour les enjeux internationaux le poids et la stratégie des investissements allemands dans l'ex-Europe de l'Est. À 7h30, le chercheur en biologie et génétique, András Páldi, qui remet en cause